RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le maître Yodu, le Dr Love. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Bah ça va, je suis ravi de te retrouver. Et tu sais quoi, je vais profiter de l'épisode du jour pour te remercier. Et adresser un grand merci à toute l'équipe d'RMC Running, à Maxime Abolin, la production, à Julie Deroux, souvent la réalisation, et tous ceux qui nous ont accompagnés pour cette saison record. On a battu tous les records RMC Running cette année.
Là.
Donc un grand merci surtout aux auditeurs, hein, ceux qui nous supportent semaine après semaine.
C'est ça, ceux qui sont encore là.
C'est ça, exactement. Donc merci à tous. Continuez de nous suivre, vous aurez des épisodes inédits tous les samedis pendant tout l'été, et on reviendra. Énorme rentrée RMC Running avec plein de nouveaux projets, vous découvrirez ça. Mais vraiment, on va se régaler, restez bien à l'affût. RMC Running continue de grandir. Aujourd'hui, on va accueillir une légende, Yodu, un homme qui ne vieillit pas, le Benjamin Button de l'Ultra Trail. Lui, grandit bien, ouais, c'est ça. On espère vieillir comme lui. Ludovic Pommeret, vainqueur de la Hard Rock 100 pour la deuxième année consécutive. C'est un monument de la saison de trail. Il va nous raconter sa course, nous parler de ses sensations et vous livrer des secrets pour rester aussi performant à 50 ans. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running.
RMC Running.
Et il est là en direct avec nous, Ludo Pommeret. Salut Ludo.
Salut Benoît, salut Yoann. Merci pour l'invitation.
Bah non, merci à toi d'être là une semaine après l'exploit, donc cette victoire à la Hard Rock 100. Deuxième victoire consécutive. Ludo qui aura 50 ans le 22 juillet. Avant de te poser une question à toi, Ludo, je vais poser une question à Yodu. Est-ce que toi, t'es impressionné, Yodu, de la perf stratosphérique de notre ami Ludo?
Ah ouais. Ah non, mais c'est dingue. La perf, elle est dingue. Bah, surtout gagner l'an dernier et de remettre ça cette année. Tu sais, quand t'es à un plus ou moins attendu, c'est pas simple. Mais là, on va parler de son âge, bien sûr. À chaque fois, je pense que tout le monde lui parle de ça. Moi, je le vois, j'ai pas encore l'âge de Ludo, mais j'ai 40 ans et je vois à quel point j'ai l'impression quand même de régresser un petit peu. Chaque matin qui avance, j'ai l'impression de régresser. Donc moi, je suis impressionné de sa capacité à gérer ses courses, à tout faire bien et à gagner des courses monumentales comme la Hard Rock. Franchement, quand tu la connais cette course, enfin moi j'ai pas eu la chance d'y être allé, mais elle fait vraiment peur quoi. C'est une course de fou furieux quoi.
Ah, c'est un sacré chantier. Je vous rappelle la Hard Rock 100, c'est un des quatre monuments de la saison d'Ultra Trail avec la Western States, avec l'UTMB, avec le Grand Raid. C'est dans le Colorado, la chaleur américaine en plein cœur des États-Unis. Donc c'est un 100 miles, un 161 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, et on change de sens chaque année. C'est ça la magie, Ludo, c'est que tu l'auras finalement gagné dans les deux sens. Bravo.
Dans les deux sens.
C'est pour ça que j'y suis retourné, parce qu'on m'a dit pour être un vrai hard rocker, il faut avoir fait les deux sens. Donc c'est bon, maintenant ils peuvent me considérer comme un vrai hard rocker.
Ça y est, j'irai plus. Je suis un hard rocker, j'irai plus. Non mais Ludo,
ça c'est pas sûr.
Tu pourrais y retourner. Vraiment, toutes nos félicitations. Bah, raconte-nous comment ça va aujourd'hui. Là, on est une semaine après l'exploit. Est-ce que tu arrives à marcher? Est-ce que tu as repris l'entraînement? T'en es où?
Ouais, c'est une semaine tout juste en fait, hein, c'était vendredi dernier. Oui, j'arrive à marcher, j'arrive à m'étirer un petit peu puisque je fais du carrelage, donc je suis obligé d'être à genoux, voilà, donc ça fait un petit peu. Ma fille a pensé à moi, elle m'a dit
sympa.
Voilà, après la course, voilà, je pense que le carrelage c'est un bon truc pour
ah ouais, donc, très bonne idée, ouais.
Non, ça va,
pour les quadrilles.
Ouais, ça se passe bien, ça va.
Ludo, c'est quoi le plus dur, le carrelage ou l'hard rock?
C'est différent, disons.
Faire les joints.
Je sens qu'il y a des courbatures un petit peu de dorsaux, donc c'est une bonne prépa physique pour la suite, quoi.
Ben voilà. Tu vas nous raconter ta course. Déjà, dire que sur la ligne de départ, il y avait de grands noms, il y avait beaucoup de Français. D'ailleurs, c'est un podium 100% tricolore. On est ravis d'avoir vu ça. Mathieu Blanchard termine deuxième, Germain Grangier troisième. Il y avait de la densité. Il y avait Zach Miller qui a animé d'ailleurs le début de course. Toi, quand tu y vas, l'état d'esprit, c'est quoi? C'est je veux conserver mon titre ou je suis plutôt en bonne forme et je vais faire du mieux que je peux?
Non, je suis toujours assez conservatif et du faire du mieux que je peux. Après, moi, j'ai annoncé quand même avant la course que pas faire un podium, ça serait un échec. Donc,
ouais.
C'est vrai qu'il n'y a pas une grosse densité. Donc, au final, il y avait 4 coureurs, 5 coureurs en fait, qui allaient vraiment jouer devant sur la course. Donc il fallait quand même en battre un ou deux, quoi. C'est tout. C'était ça l'objectif.
Vu comme ça, c'est vrai, ouais.
Ouais. Ça paraît simple.
Mais après, c'est toujours pareil avec l'ultra, c'est que vous partez, mais vous n'êtes jamais sûr de ce qui peut vous arriver, quoi. Vous avez toujours la crainte de l'abandon et de la mauvaise journée. Concernant la prépa, tu te sentais très en forme? Tout s'est bien passé sur ta préparation?
Bah, j'avais fait une prépa assez similaire à l'année dernière. J'étais assez confiant, en fait, sur l'état de forme. En tout cas, j'avais fait ce que je voulais faire. Donc ça, c'était déjà pas mal. Parce que des fois, on prévoit quelque chose et puis il y a des petites gênes ou des petites douleurs qui arrivent et qui font qu'on ne peut pas mener à bien son entraînement. Là, ça a été. Donc j'ai pu faire quelque chose de très similaire avec des soft rocks. Ce qu'on appelle les soft rocks, c'est quand on fait en plusieurs étapes la course. Ils appellent ça comme ça, hein. On appelle ça des rocos chez nous, mais bon, c'est soft rock pour être antagoniste avec la hard rock. Alors, c'est pas si facile que ça, en fait, même sur 3 jours. Donc j'avais fait une préparation que je trouvais, en fait, correcte. Pour moi, c'est ce qui avait marché l'année dernière. Maintenant, c'est pas parce que ça marche une année que ça doit marcher forcément l'année d'après. Donc,
ça serait trop simple.
Ça serait trop facile. Et puis, un petit peu l'inconnu sur ces courses aussi avec l'altitude. Donc, t'as pas mentionné que la hard rock, c'est l'altitude, quand même une course spécifique par rapport à l'altitude. Parce que le point le plus bas de la course, on va y être qu'une fois, ça sera 2004. Et on part à 2008 pour un sommet, en fait, à presque 4003. Et une altitude moyenne de quasiment 3500 mètres.
Pour les vrais chamois.
Donc il y a un paramètre altitude quand même. Un paramètre altitude à prendre en compte dans l'entraînement aussi. Et dans la gestion de course un peu.
Et d'ailleurs, on en parlera avec donc Zach Miller qui est parti comme une balle et qui s'est fait rattraper, que tu as repris au bout de 100 km. Avant que tu nous fasses un peu la carte postale comme ça, qu'on ferme les yeux et qu'on t'imagine dans le Colorado. Est-ce qu'il y a un sens plus dur que l'autre? Tu as gagné 2 fois de suite. T'as trouvé le sens de cette année plus dur que celui de l'année dernière?
De toute façon, je m'y attendais parce que c'est vrai que le parcours, je le connais. Hein, donc l'année dernière, je l'ai fait 3-4 fois dans un sens parce que c'était le sens de la course, donc le sens horaire. Et je savais que ça serait plus compliqué sens anti-horaire. Alors pourquoi? Parce qu'on se dit, y a même kilométrage, il y a même dénivelé. Mais en fait, on n'a pas les mêmes difficultés qui sont réparties un petit peu différemment. Quand on arrive à Ouré, en fait, dans le sens horaire, on a fait 70 et la moitié du dénive. Et du coup, quand on a dans le sens anti-horaire, il nous reste 70 et la moitié du dénive. Donc, beaucoup plus concentré sur la fin, le dénivelé. Et aussi, en fait, les parties plus techniques sont sur la fin. Et la deuxième chose qui fait un petit peu une différence, c'est que sur la hard rock, on a tendance un petit peu à considérer la hard rock comme un chemin technique tout le long, ce qui n'est pas le cas. En fait, on a pratiquement 30 bornes sur des pistes qui sont faites pour les 4x4 et le buggy, qui est
faut à l'américaine.
Faut le savoir, en fait. Qu'il faut le savoir, en fait, là-bas, c'est que c'est aussi le trail, la randonnée, c'est une des activités, en fait, des montagnes de San Juan. Alors, ils disent 101, mais le 4x4 et les buggies, c'est encore plus important. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent pour profiter des montagnes en 4x4 ou en buggy qu'à pied, quoi. Donc voilà, faut le savoir. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à ça chez nous.
Ah non.
Parce qu'il va y avoir des pistes qui vont passer pratiquement à 4000 mètres d'altitude. Donc, on a 30 km à faire de ces pistes-là. Et dans le sens de cette année, donc anti-horaire, on les fait toutes à la montée.
C'est quoi le décor, Ludo, alors? C'est désertique, c'est très haute altitude, tout est sec partout?
Alors, tout est sec, oui. On a eu la chance de ne pas avoir d'orage. Ouais. Moi, je n'ai pas eu du tout de pluie. Après, certains ont pris quelques gouttes de pluie, mais voilà.
Moi, j'ai terminé avant la pluie, c'est bon, ça.
Ah ouais.
Non, mais ce n'est pas avant. C'est-à-dire qu'on peut se trouver un col, c'est beau, comme d'après. Ça change super vite, quand même. Mais déjà, pas d'orage. Donc, ce qu'il faut voir, c'est à peu près jusqu'à 3005, on a de la végétation, c'est des arbres, c'est des forêts qui sont plutôt cool, ombragées. Et au-dessus de 3005, il n'y a plus de végétation. Donc, il y a un petit décalage par rapport à chez nous. Hein. La limite, elle est vraiment, je pense, au moins 700-800 mètres au-dessus, en fait, la végétation, quoi.
D'accord.
Et après, vraiment, sur les parties, quand on approche les 4000, voilà, on a beaucoup moins d'herbe et ouais, c'est plutôt minéral, quoi.
Tu le ressens au niveau du souffle, Ludo, quand tu atteins des altitudes aussi importantes, quand même? Tu sens un vrai changement quand tu es en haut d'un col et que tu dois redescendre?
Oui, il y a quand même, même avec l'acclimatation, là, moi je suis arrivé plus d'un mois avant la course, même avec l'acclimatation, il y a quand même une ventilation qui est un petit peu accélérée et une performance qui est un petit peu moindre dans les montées, c'est sûr. Dans les descentes, c'est vrai que ça se ressent moins, ouais. Parce que je pense qu'on a quand même besoin de moins d'oxygène, même si c'est d'autres choses qui rentrent en jeu dans les descentes. Mais ouais, sur les montées, on le sent quand même après un temps. Bon, ça change quand même pas mal. Hein. Ouais. Entre le 4 juin, quand je suis arrivé, et puis le jour de la course, on a quand même un ressenti qui est un peu différent, quoi.
Là, je suis sur ton activité Strava. Mmh. Je vois la vitesse ajustée à la pente moyenne. Ça fait une allure moyenne à peu près de 5,40 au kilomètre, donc sur 160 bornes, avec 10 000 de D+. Et je pense que ce qui m'impressionne le plus, alors je ne sais pas, on en parlera avec Yodu, qui est beaucoup plus expérimenté que moi, mais c'est le côté abrupt des descentes. C'est flippant, hein, quand même. T'as plus de 200 mètres de descente sur certains kilomètres. En plus, c'est assez placé, assez loin dans la course. Musculairement, c'est un enfer, ce truc, Ludo.
Ouais, donc il y a des descentes. Là, sur ce sens-là, du coup, des descentes, en fait, raides, qui est plutôt aussi sur la fin. On a eu des descentes, à part la première, qui sont relativement roulantes, on va dire.
Ouais.
Et puis après, sur la fin, ouais, des descentes qui sont un petit peu plus raides. Donc là, la différence, je l'ai surtout faite sur les descentes, au final, par rapport à mes concurrents. Mais oui, il faut être un petit peu prêt à encaisser ces répétitions. Et puis, c'est souvent des descentes qui font 1000 mètres, quoi. On n'a pas... Ouais, c'est des répétitions de descentes de 1000 mètres, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et par kilomètre, Yodu, il y a parfois 250 mètres de déclivité. C'est énorme. Au bout de 130 bornes de course, tu te rends compte le choc musculaire que ça représente. C'est fou, quoi,
Yodu. Ah bah non, mais oui. C'est sûr que musculairement, faut être prêt. Mais après, c'est vrai que le côté haute altitude, il est hyper important. Je pense qu'être allé un mois avant... Tu l'avais fait l'année dernière, arrivé aussitôt ?
Cette année, en fait, donc je suis arrivé le 4 juin pour la course le 11. Et l'année dernière, je suis arrivé le 14 juin, donc 10 jours plus tard, pour la course le 12. Quoi. Donc ouais. J'avais fait déjà une préacclimatation. L'année dernière, j'avais fait une préacclimatation en fait en tente hypoxique.
Oui.
Cette année, j'ai fait très peu, quoi, en fait, avant. Et voilà. Mais le fait d'être allé encore plus tôt, je pense que ça aide aussi.
Ça a joué, ouais.
La tente hypoxique, c'est bien quand on a que ça à disposition et quand on travaille, ce qui était mon cas l'année dernière. Mais il n'y a rien de mieux que le spécifique. Hein. Quand on peut aller sur place, c'est encore mieux. Quoi.
Ouais, parce que ça y est, t'as cotisé, tu seras bientôt à la retraite, Ludo. C'est ça l'avantage. Ça y est.
Non, ouais, j'ai fait mon dernier jour en vacances. J'ai fait mon dernier jour de travail le 31 mars. Je suis officiellement à la retraite, entre guillemets, depuis le 1er avril. Donc non, maintenant je suis professionnel du trail running à temps plein depuis le 1er avril.
et vu les performances, on comprend.
Ouais, bravo, non, très bon choix.
Tu vois, alors je sais pas si d'ailleurs ça commence à te saouler qu'on te ramène toujours à ton âge, 50 ans, tu fights avec des mecs qui sont beaucoup plus jeunes, mais bon, tu n'as rien à envier. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que, parce que toi tu as de grandes victoires à ton palmarès, on va le rappeler quand même, tu as gagné l'UTMB en 2016, tu as gagné le Grand Raid en 2021, c'est assez récent encore, est-ce que tu dirais que cette hard rock, c'est celle qui correspond le plus à tes qualités parce que tu as une connaissance parfaite de ton corps, tu arrives toujours à gérer cette zone rouge quand tu te mets dans la difficulté, mais pas trop. Est-ce que finalement la hard rock, elle est taillée pour toi? C'est pour ça aussi que tu gagnes 2 années de suite?
Je sais pas, on dirait que ça me réussit en tout cas. Je dirais que, c'est sûr qu'il y a j'ai une certaine connaissance de mon physique et de mes sensations. Je discutais avec Mathieu parce que j'ai fait la soft rock avec Mathieu, et qui me parlait en fait de ces zones de cardio, tout ça qui est... Moi, je connais même pas mes zones. Il était surpris que je connaisse pas mes zones de cardiaque. Je dis, mais moi, c'est sensation. Et puis, je travaille à la sensation. Et je dis, mais t'as pas peur que tes zones, en fait, de travail, par rapport à l'altitude, en fait, elles soient impactées?
T'as raison, bien sûr.
Moi, j'ai mis un capteur fréquence. J'en utilise pas souvent. J'ai mis un capteur fréquence parce que j'aime bien regarder après la course.
Ouais.
ma fréquence moyenne cardiaque, je crois qu'elle était à 128 sur toute la course. Et je suis monté qu'à 155 au max. Et normalement, je monte un peu plus haut quand même, quoi. Donc, je pense que l'altitude a quand même un impact sur la fréquence cardiaque. Donc, voilà. Après, être trop basé, en fait, sur des données... alors, mon partenaire Coros va pas être content que je dise ça. Hein. Non, trop donné sur les données de la montre et moins sur ses sensations. Peut-être que c'est pas pertinent dans certains cas.
T'as raison d'en parler parce que d'ailleurs, Coros est hyper fiable d'un point de vue cardio. D'ailleurs, j'imagine que tu avais le brassard autour du biceps.
Oui,
c'est toujours la donnée la plus fiable à suivre. D'ailleurs, vous pouvez regarder, mais tous les athlètes de haut niveau, trailer ou même coup, ceux qui font du marathon, ont souvent le brassard autour du biceps. Ouais, c'est dingue ce que je regardais, c'est que ta fréquence cardiaque sur cette activité-là, elle ne monte jamais au-delà de 145. Ouais. C'est ouf.
Mais ça confirme. Je crois que c'est 155, mais
bon. Ah bon, écoute, attends, je vois 647. Je suis en train de regarder, comme ça, je fais défiler les kilomètres. Ouais, t'es pas monté très haut. Hein. Enfin, c'est un cardio vraiment iodu pour donner un ordre d'idée à ceux qui font pas attention à leur cardio fréquence mètre. C'est en gros, c'est du cardio de footing entre guillemets pour nous tous. Hein. C'est ça. Hein.
Oui, mais après, on est sur un effort de 160 km, donc c'est sûr que si tu commences à taper dans les zones élevées au niveau du cardio, quelque part, c'est comme avec ta voiture, hein, tu vas consommer plus, le moteur va commencer à être en surchauffe et ça va devenir compliqué. Donc effectivement, tu restes dans des zones relativement basses. Alors après, voilà, la moyenne, elle est aussi corrélée parce que dans les descentes, le cardio descend toujours un peu et c'est vraiment musculairement où là, ça va tabasser. Et après, c'est dans les bosses ou dans les grosses montées de col, hein, presque, parce que quand je suis devant le dénivelé, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 pics à passer.
Quelle horreur.
Voilà, c'est dans ces parties-là où c'est compliqué, mais effectivement, il ne faut jamais monter, dans des zones, dans des zones rouges. Ouais. Sinon, tu ne tiens pas sur 23 heures d'effort. Quoi.
Ludo, tu nous as parlé de la carte postale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'atmosphère de cette course, si particulière d'ailleurs?
Ouais, l'atmosphère est particulière aussi par rapport, si on compare forcément par rapport à la course la plus connue qui est l'UTMB, l'ambiance est bien différente. Non, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 146 coureurs au départ, donc vraiment compliqué d'avoir un dossard aussi. C'était aussi une des raisons pour laquelle j'y suis retourné, c'est parce que moi j'ai mis 5 ans pour avoir la loterie, donc on doit appliquer à une loterie en ayant des courses qualificatives, c'est-à-dire pendant 5 ans, on doit garder ces courses qualificatives qui, pour la France, sont le Grand Raid ou l'UTMB. Donc, ce n'est pas si simple à garder des courses qualificatives.
Tu avais fait quelques résultats par le passé.
Ouais,
mais pourtant, tu vois, c'est la preuve que c'est compliqué même pour toi. C'est ça qui est fou.
En fait, moi, j'ai toujours fait la loterie. Et il y a possibilité, en fait, que le directeur de course sélectionne des coureurs. Enfin, je crois que c'est 4 coureurs, juste en fait, sur un dossier, quoi. Ouais. Donc moi j'avais aussi fait un petit dossier disant que j'étais motivé pour venir tout ça, mais j'ai quand même bien été tiré, j'ai eu la confirmation que j'ai bien été tiré par la loterie, donc peut-être que si j'avais pas été tiré ils m'auraient peut-être pris quand même,
c'était vraiment t'as fait le parcours
le
normal
du hasard. Et il y a des personnes qui mettent je crois que le plus loin que j'ai entendu c'est 13 ans pour arriver, mais ça veut dire que pendant 13 ans il faut maintenir en fait au moins un ultra tous les 2 ans pour avoir cette course qualificative. Donc ouais, la rareté du dossard, c'est déjà quelque chose. Et puis et le fait d'être 140 sur la ligne de départ. D'ailleurs, il n'y a pas de ligne.
On est sur
un chemin à Silverton. Donc Silverton, c'est une ville minière. On est sur une route, mais qui n'est pas goudronnée. Il n'y a pas de ligne au sol. Il y a des barrières, il y a des drapeaux, il y a le rocher qu'on doit embrasser à l'arrivée. Et voilà, c'est
le rocher blanc mythique. On t'a vu très ému d'ailleurs à l'arrivée. Ouais.
Et comme l'année dernière, j'ai pu être 10 minutes avant le départ. J'étais avec mon coach encore au téléphone. Avec le décalage horaire, ce n'était pas trop tôt pour lui. C'est vraiment une ambiance différente. Les médias, c'est pareil. J'ai fait 2-3 interviews, mais pas comme l'UTMB. L'année dernière, je courais l'UTMB, mais la semaine d'avant l'UTMB, j'ai fait 22 sollicitations
la semaine
précédente. Ça n'a rien à voir. Quoi.
Donc... C'est sûr. tu apprécies l'intimité de cette course, entre guillemets, quoi, et le fait que là, vous êtes réunis en tant qu'ultra passionnés, chacun est allé chercher son dossard à la sueur de son front, et ça change un peu ce côté. C'est vraiment le côté nature ultra que vous aimez, quoi, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même des montagnes qui sont vraiment cool pour s'entraîner. Il y a plein de trucs à faire. Là. Nous, On s'amusait un petit peu avec Céline ou des fois seul à collectionner les 14 000. Donc 14 000, c'est 4003. Enfin, les sommets, ils en ont je crois que 52 au Colorado. Quoi.
Ouais.
Donc, moi, j'ai dû en faire une dizaine là, pendant la préparation. Mais voilà. Ouais, c'est un endroit qui est sympa pour s'entraîner, mais l'ambiance de course, enfin, on est quand même aussi beaucoup plus détendu. C'est une course quand même moins stressante que l'UTMB. Il y a beaucoup moins d'enjeux entre guillemets aussi, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, le fait d'être peu nombreux et d'avoir moins de challenges, ça intéresse aussi moins de coureurs. Pour les sponsors, c'est quelque chose qui est moins parlant que gagner un UTMB. C'est sûr que j'aurais préféré gagner deux fois de suite l'UTMB, c'est sûr, mais j'ai pas les capacités. Mais je trouve que c'est vraiment une course qui est cool et qui est différente et beaucoup plus reposante. Et c'est un endroit où j'aime bien aller aussi m'entraîner. Enfin, nous on n'a pas dormi une seule fois à l'hôtel jusqu'à une semaine avant la course. Donc on a fait 5 semaines en voiture.
On dormait dans
la voiture ou en tente.
Okay.
Et on peut se poser un peu n'importe où. Souvent, en fait, sur les pistes, il y a des toilettes. Enfin, bon, ce qui manque un peu, c'est les douches. Les rivières sont fraîches quand même.
Ah, ouais, okay.
mais c'est un truc où, voilà, je me sens bien par rapport à ça, quoi.
Bon, racontons cette course. Je l'ai dit, Zach Miller, qui, comme à son habitude, part assez vite. Toi, tout de suite, t'es dans le contrôle, la gestion. Tu te fies pas trop aux autres. Comment ça se passe le début de course?
Dans la gestion, on les a toujours vus, en fait, parce que tu parles de Zach, mais en fait, c'est Zach et Mathieu qui sont ensemble sur la première montée, première descente. Mm-hmm. Ils n'ont pas non plus un quart d'heure d'avance, quoi.
Tu les as en ligne de mire, 3-4 minutes.
Ouais. On les a pas très loin. Juste qu'il faut savoir sur cette course et cette année en particulier, c'est que moi, j'ai hésité à arrêter la course, en fait, assez tôt, au premier ravitaillement. Parce que on avait beaucoup de fumée, en fait. Au nord de la course, il y avait des feux de forêt.
Ok.
Et du coup, le vent rabattait pas mal de fumée sur la course. Et c'était assez dense, en fait, sur les deux premières montées.
Donc tu inhalais de la fumée, quoi, c'est ça?
Ah ouais.
Ouais, ouais. Et moi, ça me prenait un petit peu la gorge. Et voilà, j'ai encore gardé de la toux. Et en fin de course, j'avais pas mal de toux.
Ok.
J'ai vraiment posé la question. Je me suis posé la question si j'arrêtais ou pas. La course avait proposé, avant le départ de la course, de garder notre dossard pour l'année d'après, en fait, justement pour ces raisons-là, si on ne voulait pas prendre le risque de partir avec ces conditions. Donc un petit peu spécifique, un petit peu spécial. La dernière, ce n'était pas le cas du tout. Au final, j'ai quand même continué parce que je savais qu'après la deuxième montée, on allait arriver dans une zone qui est un peu plus protégée et qui allait avoir moins de fumée. Et au final, j'ai bien fait parce que les vents ont tourné et donc c'est repassé avec un flux de sud qui a chassé la fumée et c'était mieux en fin de course. Mais c'est vrai que je pense qu'on a mangé pas mal de merde au début de course.
Ah ouais, ok. Donc pas très agréable, quoi, tout ça. Ah ouais.
Non, ouais. Pas très agréable. Donc c'est pour ça à se poser la question si vraiment je continuais. Mais pour continuer par rapport à Germain, à Mathieu, puis à Zach, au scénario de course, il devait être 2-3 minutes devant, je pense, au ravitaillement. Germain, on a pratiquement fini la montée ensemble. Je vais un petit peu plus vite dans la descente. Et voilà, donc ça, c'était premier ravitaillement, donc à 15 km de course. Mmh. Et moi, je les ai rattrapés à peu près au 30e km de course, quoi.
Ok, donc il n'y a pas eu 100 bornes de Zach Miller tout
non,
seul.
Non, il n'y a pas du tout eu 100 bornes, parce que quand j'arrive, donc je les ai rattrapés sur une partie. Dans ce sens-là, la première partie de course, en fait, on a une bonne portion, en fait, qui s'appelle Paul Creek, qui est assez roulante, en fait, où on va faire pratiquement 15 bornes de plat. Enfin, 7 bornes de plat descendant, 7 bornes de plat montant, donc une partie qui est assez roulante. Donc là, je l'ai passé avec Mathieu et Zach. Germain était peut-être même pas 500, ouais, 300 mètres derrière, on le voyait, il était vraiment pas loin. Mm-hmm. Et après, j'ai fait un petit peu la différence encore dans la descente, qui allait redescendre sur Sherman. Et Sherman, c'est kilomètre 45, où là, je suis passé, je vais avoir 3-4 minutes d'avance. Voilà, à ce ravitaillement-là. Donc, depuis le kilomètre 45, j'étais en tête de course. Ouais.
Ok. Comment t'expliques cet avantage que tu prends dans les descentes?
Comme j'ai expliqué, moi je sais à la sensation, et puis moi je considère, alors je vais pas donner tous les secrets non plus, parce que si
je t'as raison, voilà.
Non, mais je considère aussi qu'avec l'altitude, je préfère être vraiment conservateur dans les montées, être vraiment dans une allure qui est confortable. Voilà, il y a le manque d'oxygène, c'est quelque chose qui va. Enfin, c'est pas un manque d'oxygène, hein, parce qu'on a le même oxygène de partout, mais ouais. On arrive à prendre moins d'oxygène à haute altitude. Mmh. Donc, du coup, c'est quelque chose aussi où on risque de le payer un peu plus tard dans la course. Donc, je préfère vraiment être assez cool dans les montées. Et dans les descentes, en fait, on est quand même un peu moins consommateur, donc plus se lâcher dans les descentes. Et je savais par rapport à la prépa aussi que j'étais assez prêt musculairement à encaisser les descentes. Alors, peut-être pas tous, j'ai quand même eu un peu plus de mal dans les dernières et aussi parce qu'elles sont plus techniques. Je savais que par rapport à ma prépa, notamment ma première soft rock, les jambes avaient quand même bossé un peu. Quoi.
En altitude, tu arrives à t'alimenter, à boire et à manger ou c'est plus compliqué ?
Alors, c'est une de mes craintes, et c'était même une des craintes majeures, en fait, d'abandon, c'est d'avoir des problèmes gastriques sur la course.
Ouais.
Mais non, j'ai pu m'alimenter correctement, en fait, tout au long de la course. Donc, à rester, alors, par rapport à peut-être des marathoniens ou les cyclistes, en tout cas, avec un peu moins de glucides, mais j'essaie quand même de tourner toujours autour de 60 grammes de glucides par heure. Et ça, j'ai pu le tenir jusqu'à la fin de la course. Ouais.
Tu l'as ressenti, toi, déjà, Johan, quand tu vas t'entraîner au Kenya en altitude, le fait d'avoir moins soif ou moins envie de manger, même en séance ?
Alors, le Kenya, c'est différent parce qu'il fait quand même relativement chaud,
ouais,
donc tu as quand même soif. Mais effectivement, ça a pu m'arriver en haut de Font-Romeu sur des périodes un peu fraîches. Tu n'as pas cette sensation de chaleur, donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut être vigilant par rapport à l'hydratation. Malgré tout, voilà, tu transpires quand même. En plus, tu es asséché, tu as une sensation un peu bizarre en quand même haute altitude. Hein, quand on n'est pas loin des 4000 mètres, on est quand même très très haut.
Ah ouais.
Donc ouais, faut être vigilant, faut bien s'alimenter, bien s'hydrater, et parce que 170 bornes, la moindre petite erreur, tu peux la payer cash quoi. Donc là, faut vraiment être vigilant et professionnel là-dessus. Ouais.
Vous entendez
et
que
par rapport à l'hydratation aussi, c'est important même de plus s'hydrater en altitude en fait, et surtout là-bas en fait où l'air est vraiment sec. Quand on arrive là-bas en fait, moi ça va, je suis pas trop sensible, mais j'ai pas mal dans notamment Germain, même ma femme en fait avait des segments de nez, enfin voilà des
ah ouais
des,
la chaleur sèche choses, en fait, c'est vraiment dur à encaisser pour certains.
Un petit peu différent, et puis au début aussi, alors je pense qu'il y a une certaine acclimatation quelque part aussi. Au début on est tout le temps en train de pisser, je pense que c'est les différences de pression aussi. Voilà, on a beaucoup plus envie d'uriner qu'à plus basse altitude, donc continuer à bien s'hydrater. Et aussi, l'altitude, en fait, génère une demande un peu plus au corps, en fait. Donc, manger un peu plus, normalement, de manger un peu plus que ce qu'on le fait à une altitude moindre, quoi.
Vous avez capté que Ludo n'a aucun répit. Entre sa fille pour le carrelage et le chien pour aller faire une promenade, c'est incroyable. Personne ne le laisse tranquille.
Tout le monde lui met la pression.
je suis désolé, là.
Non, t'inquiète.
Ils étaient aux travaux, donc ils sont en train de se doucher. Ils ne peuvent pas s'occuper du chien.
Non, pas de problème, t'inquiète pas. Ce qui nous bluffe dans ta perf, surtout Ludo, c'est l'écart avec Mathieu qui termine deuxième. Plus d'une heure d'avance, on le précise. Donc toi, tu termines en 22h et 21 minutes, 55 secondes d'ailleurs, pour être très précis. T'es allé plus vite dans l'autre sens d'ailleurs, t'avais établi le record, je crois. Là, c'est impressionnant, le record de Jornet l'année dernière, et cette année tu n'as pas battu le record de François Denne, mais bon, ça vous dit le niveau qu'il faut pour aller chercher ces chronos là ça veut dire que dans le déroulé de course, tu comprends assez vite que en gros, si t'as pas de défaillance, tu vas gagner une deuxième année consécutive.
Ouais, alors moi j'aime pas me dire ça, déjà je préfère rester dans mon allure concentrée, et puis et même dans la dernière descente, je savais que j'avais pas mal d'avance, mais c'est un trail, donc sans être péjoratif, c'est pas un marathon, donc
tu restes concentré donc, jusqu'au bout.
C'est
quoi,
surtout c'est surtout la chute en fait qu'on craint.
Eh bien sûr, bien sûr.
Et là, avec une heure d'avance, ce qui peut nous arrêter, ouais, ça peut être une chute, et puis la course, elle est finie même à 5 km de l'arrivée, quoi. Donc
arriver,
donc rester concentré, et puis il y avait quelque part aussi Chez mes pacers et moi, cette idée d'aller titiller le record, j'étais jusqu'au, je pense, 120. Je pense que j'étais dans les temps de record. Et puis, en tout cas, j'ai perdu un petit peu dans les dernières montées. Eu plus de mal. Et puis, sur la fin de course, vraiment lâché, puisque j'avais plus rien à aller chercher. Donc, c'est vrai que j'aurais pu descendre ce temps-là, je pense, d'une bonne dizaine de minutes. Mais ça m'a laissé trop loin du record. Donc, voilà. Sachant que le record de François et le parcours n'étaient pas tout à fait identiques.
Et voilà, c'était plus facile.
3 km de moins. Donc, il y a 3 km de moins, ils avaient changé un petit peu. Ah. Mais bon, voilà. Mais ça n'empêche pas que sur les changements avaient été faits avant la mi-course. Et à la mi-course, j'étais en avance sur le record. Mais peut-être que je l'ai payé un peu aussi sur la fin. Quoi.
Alors, tu avais deux pacers, un certain. Un Jim Walmsley et un Vincent Bouillard. C'est pas mal, ça fait une belle dream team ça pour t'emmener aussi.
Ouais. Non mais c'est voilà, j'ai choisi des. Comme j'ai dit, alors ironiquement, il faut le dire tout de suite, j'ai choisi un petit peu des gens qui avaient un petit peu.
Un petit niveau.
Peut-être d'avenir dans le.
Ouais, un peu d'avenir. Ouais,
des gens qui débutaient mais qui peut-être pouvaient faire quelque chose. Non, je plaisante. Évidemment, donc non, ouais.
Mais c'est super de partager dans une grande course, un grand objectif de la saison, des segments comme ça avec des
pendant
mecs
combien de kilomètres
aussi forts. Ouais.
Et donc le pacing, ils font 90 km, donc ils ont fait 45 bornes chacun à peu près.
Ah ouais, quand même.
Ouais, c'est plus de la moitié de la course. Alors pour. Voilà, c'est une spécificité des courses américaines, souvent des ultras aux US. Et encore plus pour la route, qu'en fait, qui peut vraiment être. Une aide entre guillemets, hein. C'est une aide morale surtout.
Ça t'apporte quoi concrètement, Ludo, d'ailleurs? Ouais, c'est un tempo hein, que ton pacer te met et du coup c'est plus facile à suivre parce que tu as moins à réfléchir, c'est une trajectoire
que
c'est...
Non, parce que moi je leur demandais en fait d'être toujours derrière, donc c'est toujours moi qui donne le pace. Donc c'est vraiment un soutien mental et de la compagnie. Moi j'aime bien courir.
Sinon tu t'ennuies.
J'aime bien faire les stages. Tu t'ennuies,
je plaisante.
Tu pourrais courir avec les autres coureurs, non mais c'est vraiment un soutien. Je sais que Vincent en fin de course, il a essayé quand même de me pousser chaque relance, d'essayer de me motiver pour relancer quand on était encore pas loin des temps de record. J'en discutais avec Zach qui a pas pris du tout en fait de pacer. Il me disait que des fois il s'asseyait sur un caillou, enfin voilà, quand c'était dur. Et je pense que le fait d'avoir un pacer, ça motive. Il n'y a personne autour, je m'assois sur un caillou, personne ne verra. Non, là, il y a toujours le pacer. Et voilà, qui est là pour motiver. Donc, c'est assez connu. Voilà, ça n'a pas le même impact qu'un lièvre, en fait, sur le marathon, parce qu'on ne court pas du tout à la même vitesse. Et on a la plupart du temps les marches en montée. Donc, on n'a pas d'aspiration. Ils n'ont pas le droit de faire de muling, donc ils n'ont pas le droit de porter quelque chose. Ils ont pas le droit de faire grand chose à part d'être là mentalement avec nous quoi et nous supporter, nous tenir compagnie. Ils peuvent donner dans certains cas en fait la direction quand c'est la nuit, quand on passe des fois sur des névés, ça peut être utile.
C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une autre façon de voir les pacers, c'est que tu sais que ce sont des trailers de très haut niveau et pour parler vulgairement, Yodu, ça, en gros ça pousse au cul quoi. C'est-à-dire qu'on sent que le rythme est bon quand on voit que le mec qui est très fort et qui t'accompagne, lui aussi il est pas en toute détente quoi, j'imagine.
Ouais, et puis après, c'est vraiment le côté mental hein, qui est le plus important sur le pacer. C'est de. Ouais, tu te décharges, effectivement, tu peux te décharger de l'allure. Nous, c'est vraiment le cas sur marathon. Et j'imagine que dans des grands moments de petits plats ou de qui roulent un peu, effectivement, tu te cales avec lui et tu lui fais totalement confiance sur l'allure. Mais après, voilà, le rôle, il est important parce que au-delà de pousser l'athlète et de le remotiver quand ça va pas, faut pas non plus, l'amener sur un faux rythme, sur régime. Faut vraiment être à l'écoute de ses sensations. Donc, je pense qu'il y a, pour pacer à ce niveau-là, il y a qu'un mec. De haut niveau, qui connaît le truc, qui a déjà vécu un ultra, qui sait peut-être utiliser les mots, tu vois, je pense que tout le monde peut pas accompagner, quoi.
Non, ça c'est sûr. L'émotion de l'arrivée, Ludo, tu peux nous la raconter? Est-ce qu'elle est différente de l'année dernière? Est-ce qu'elle est aussi forte, plus forte encore?
Il toussait.
Ouais.
Ouais, je toussais un petit peu. Non, mais j'ai pu beaucoup plus profiter. Je me suis vraiment relevé après la traversée de la rivière. après la traversée de la rivière, je me suis vraiment relevé pour profiter un petit peu de la fin de course. L'année dernière, j'étais vraiment, enfin voilà, pour aller chercher ce record, j'avais vraiment poussé loin en fin de course.
Ouais.
Et du coup, j'avais pas trop apprécié l'arrivée là. J'ai fini en marchant alors que voilà, j'aurais pu courir. Enfin voilà. Donc, et puis je discutais avec Vincent. Donc c'était plutôt cool et on a passé les quatre ensemble en fait. Mes deux paceurs, Céline et moi, la ligne d'arrivée ensemble. Et ouais, c'était cool, quoi. Avec, c'est 4 heures, j'arrive à 4h20 du mat, avec, je sais pas, peut-être 20 personnes, 30 personnes sur la ligne, quoi.
Ouais. Ouais. C'est la beauté, le charme jusqu'au bout.
Pas de sono.
Et ouais, c'est ça.
Pas de lumière.
Pas Ludocollet qui bug, ouais. Évidemment.
Non, ouais,
c'est ça, le truc. Non, mais écoute, c'est tout aussi charmant et particulier. En tout cas, encore une fois, félicitations. Donc, je rappelle le chrono qui est stratosphérique. 22h21min55s. Mathieu Blanchard termine deuxième en 23h44min31s. Et c'est un petit cadeau qu'on voulait te faire. Il a tenu à te laisser un message, Mathieu, justement. On a eu cette discussion assez marrante de vous deux à l'arrivée quand il t'a dit « Mais attends, tu m'avais pas dit que c'était aussi dur dans ce sens-là. » Ben écoute, à froid, il t'a laissé un message, Mathieu.
Salut mon Ludo. Bon, t'es vraiment chiant. À 50 balais, t'es censé ralentir. Pas gagner la Hard Rock tranquille comme ça pendant que nous, on galère derrière. À cause de toi, là, on va devoir continuer à courir longtemps. Nous qui pensions prendre notre retraite à 35 ans, comme tous les sportifs sérieux dans les sports d'endurance, ben c'est raté à cause de toi. On va devoir prendre nos retraites beaucoup plus tard, là. Donc voilà, si tu continues, moi, je vais finir par sortir mon gilet jaune, je te jure. Écoute, ce petit message un peu bienveillant. L'année dernière, je me rappelle qu'on avait couru ensemble en 2023, on avait couru la Western States et l'UTMB ensemble. On avait tous les deux fait l'enchaînement. Je crois qu'on avait passé quasiment 50 bornes côte à côte sur chacune des courses. Et puis, j'avais réussi à trouver les ressources pour m'échapper. Mais là, sur cette Hard Rock, ça a été toi, le patron. Donc, encore une fois, bravo, je te l'ai déjà dit. Ça m'a fait super plaisir de passer du temps avec toi dans le Colorado. T'es un mec simple, passionné, toujours avec le sourire. Et puis, rappelle-toi, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Alors encore, bravo vieux briscard, récupère bien et puis à bientôt sur une prochaine belle course d'ultra.
Est-ce que tu leur as mis au jeune Ludo, bravo. Voilà.
Ouais, bon. Non, mais c'est pas... Après, voilà, c'est... Il y a eu une différence, mais ça se fait aussi surtout sur la fin. Enfin, c'est toujours comme ça en ultra, en fait. Hein. Quand les écarts se creusent vraiment et s'amplifient vraiment sur la fin de course. Quoi. Donc,
On embrasse Mathieu Blanchard. C'est pas anecdotique.
Merci pour son message.
Quand je lui ai demandé, là, il l'a envoyé tout de suite. Hein, donc ça prouve le respect qu'il a pour toi et cette connexion, cette amitié que vous avez tous ensemble, français et internationaux, parce qu'on a entendu hein, Jim qui est l'autre qui adore de la discipline, qui t'a accompagné, qui t'a payé dans le Colorado. Ce podium 100% français, ouais, je voulais dire, c'est pas anecdotique quand même. Ça prouve le niveau qu'on a en France dans l'ultra, dans le trail tout court. On est vraiment une place forte de cette discipline, Ludo. Ça, c'est super quand même.
Oui, c'est sûr qu'on est une nation qui est forte. J'espère que on le prouvera au championnat du monde ouais. qui arrive là en septembre. Voilà, où il y a une équipe solide en France. Je sais qu'il y aura une équipe très solide aussi aux US. Donc, à voir ça. Mais c'est sûr que on est une nation en fait dans le trail et encore plus l'ultra trail. Non, pas plus, mais ouais. Peut-être un petit peu moins en montagne où il y a plus de. Enfin, c'est hyper compétitif aussi en montagne et on a plus de nations différentes. Quand on commence à augmenter un petit peu les distances, on reste une nation qui est aussi un petit peu précurseur. Enfin, voilà, où on voit tellement aussi nombre de trails. Il n'y a qu'à voir le nombre de trails qu'il y a en France.
T'as raison.
Pour voir aussi l'engouement qu'il y a pour la discipline. Et je les comprends, hein, parce que c'est quand même bien de passer du temps en montagne.
Ben voilà, c'est ça, exactement. Je salue aussi Germain Grangier, ami d'RMC Running, qui termine troisième en 24h04min11s. 35 ans, bravo à Germain. Et bravo surtout à sa compagne, Cathy Scheid, l'américaine, ouais. Qui a battu le record féminin. Magnifique perf, 26h11min49s. Elle a battu le record d'une certaine Courtney Dowalter. Donc ça vous donne une idée de la perf aussi de Cathy.
26h, je crois que c'était le record de Courtney. Elle, ça doit être 25h. 25h50.
Ah, 25h50, t'as raison. 50, ouais. Exactement. et on salue Manon Board, d'ailleurs, avec qui tu t'es entraîné dans les Rocos, qui termine, elle est en 28h36. Donc, magnifique, elle termine deuxième. Manon, en super forme aussi. Et ça nous permet, Ludo, tiens, tu t'associeras à nous. Mais comme ça, on salue Oka, donc ton partenaire, qui nous accompagne sur toute l'OP UTMB qu'on a mis en place avec l'accompagnement de nos athlètes, Johan, qui vont partir sur les différents formats. Oka qui
donne. Ah, ouais, s'ils ont les mêmes chaussures que Ludo, c'est bon.
Est-ce qu'il y a des chaussures magiques, Ludo ? C'est ça la question. Est-ce que ça fait partie de la paire, forcément ? Mais ça prouve que c'est une marque de référence, Oka.
Ouais, y a une paire de chaussures que j'aime bien, là, qui arrive sur le marché, et la paire que je portais était basée là-dessus, en fait. Je suis pas sûr que je peux ça encore le dire, mais je pense que ça a déjà fuité pas mal. Donc ça s'appelle la Rocket X Trail. Donc c'est une base que j'aime vraiment bien. Après, elle était un petit peu modifiée pour encaisser les conditions de l'hard rock, parce que c'est une chaussure qui est plus donnée pour du gravel, quoi.
Voilà, donc un modèle magnifique. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous suivent dans cette OP UTMB. Et la transition est toute trouvée, Ludo. Parce que je sais que tu as ton dossard pour l'UTMB, je sais que tu as de l'ossard pour le Grand Raid aussi. Je sais que tu as dit j'irai au Grand Raid, mais est-ce que tu vas aller à l'UTMB alors?
Ouais, c'est pas encore décidé, mais
ah, t'as pas décidé
c'est quand même peu probable. Disons que ça serait plus raisonnable de ne pas y aller. Ouais.
Il y a les travaux à finir.
Voilà, c'est ça. Ouais, le plus important, c'est le carrelage.
C'est ça. Le carrelage, ça va, mais après, j'ai une toiture à faire.
Oh là là, ah oui, qu'est-ce que c'est que cet été? C'est fou, non?
Mais par contre, normalement, c'est dans l'autre sens. Hein. On fait d'abord la toiture et après le carrelage.
Mais c'est pas dans la même maison. C'est pas parce que j'ai deux filles.
Là, les enfants. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors on te verra certainement à Chamonix, mais pas pour disputer l'UTMB. Alors, pas forcément.
Ouais, pour discuter, en tout cas, je serai à Chamonix la semaine, ça c'est sûr.
Ouais. Ouais. Et après, prépa grand raid pour le dernier objectif de saison, c'est ça ?
C'est ça. Bon.
Et bah magnifique. Ludo, un grand merci de t'être rendu disponible malgré toutes ces occupations, d'avoir débriefé cette magnifique victoire à la Hard Rock. Félicitations encore, tu reviens quand tu veux dans la MC Running. Bah si tu gagnes le grand raid, tu reviendras, tu sais que c'est noté déjà.
Je pense que ça sera un peu plus de challenge, mais merci en tout cas pour l'invitation et à bientôt.
Et bah avec plaisir, vraiment. Et grand merci Yodu pour cette saison, ça continue tout l'été, il y a pas mal de thématiques qui vont tomber, vous adorez ça. La gestion de la chaleur, le fond de prépa, pas mal de bons témoignages aussi qui vont arriver dans les prochaines semaines. Un grand merci Johan pour ton
merci
investissement toutes les semaines dans RMC Running. Merci à vous tous et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.